France Info.
Bonjour Christophe Castaner.
Bonjour.
Vous étiez au premier rang des ministres hier à l'Élysée lors de cette conférence de presse d'Emmanuel Macron. Un mot pour qualifier son intervention.
Lucide. Lucide parce que on peut toujours faire des promesses, vouloir faire rêver, mais ensuite on est rattrapé par la réalité. J'ai en tête plusieurs tournants historiques dans les politiques publiques de président ou de premier ministre. Et la réalité, elle vous rattrape. Donc oui, lucide dans le constat d'une part d'incompréhension, dans un constat d'une part de mise en cause, y compris personnelle. Il a abordé ce sujet. Vos collègues journalistes sont interpellés aussi. Lucide sur la réalité aussi des attentes des Français. Il a répondu à ces attentes.
Vous avez vu qui est son comportement, son attitude personnelle. Justement, le chef de l'État a fait son mea culpa. On va écouter un extrait de son intervention.
L'impatience, l'exigence que j'ai avec moi-même, que j'ai avec les membres du gouvernement, je l'ai un peu eu avec les Français. Et donc, le sentiment que j'ai donné, c'était une forme d'injonction permanente, d'être dur, parfois injuste. Et ça, je le regrette. Parce que d'abord, c'est parce que je suis profondément et parce que je pense que ça n'a pas aidé à la cause.
Ça veut dire qu'il va changer ?
Ça veut dire que il a conscience que l'image qui a été projetée, qui a été relayée, que quelquefois vous avez dénoncée, n'est pas ce qu'il est. Moi, je connais Emmanuel Macron depuis de longues années. Je passe, vous le savez, beaucoup de temps à ses côtés avec lui. Et je sais que cette image n'est pas lui. Donc, l'émetteur, la façon dont il a pu s'exprimer, dont il a pu être entendu, est une nécessaire révision de cela. Et donc, il en prend acte, mais il l'a déjà fait. C'est pas la première fois qu'il aborde aussi cette réalité, ce décalage-là. C'est quelqu'un qui est impatient de faire, de transformer en profondeur notre pays. Ça peut apparaître comme de la brutalité, même comme de l'arrogance. Le mot a été utilisé hier. Je crois qu'il a répondu ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est quelqu'un qui sait écouter, qui sait défendre, c'est aussi un passionné, c'est aussi quelqu'un qui n'est pas là pour regarder les trains passer, qui veut que les choses changent.
Il était satisfait, le président de la République, de sa prestation ?
Vous savez, dans ce cas-là, il demande à ses proches qu'est-ce qu'on en a pensé.
Qu'est-ce
qu'il
n'est
pas dans un exercice d'autosatisfaction.
Qu'est-ce que vous lui avez dit ?
Je pense qu'il a réussi l'exercice, qu'il a été vraiment président. Et peut-être un reproche que certains lui ont fait, c'est d'être à la fois président, premier ministre, ministre. Souvent, j'ai entendu ce reproche-là.
Là, il est redevenu président.
Il a donné un cap, il a donné aussi une impulsion et des injonctions au gouvernement. Il a donné aussi un cahier des charges précis, un calendrier précis. Nous serons lundi autour du premier ministre Édouard Philippe en séminaire toute la journée pour arrêter les conditions d'une mise en œuvre très rapide et à moyen terme de cette feuille de route.
Il n'y a pas eu de critique au moment du débriefing. Personne ne lui a dit « vous êtes un peu long ». Par exemple, 2h30, là où il avait dit qu'il ferait 20 minutes, il en fait le double.
On vous a vu, Christophe Castaner,
je vous pose la question, parce qu'on vous a vu un moment sur les images, pas piqué du nez, hein, vous êtes ministre,
non,
mais
vous êtes
un peu perdu dans vos pensées pendant cette très longue intervention du président.
Non, j'étais très attentif, je trouve que cette dénonciation...
On peut tous avoir des moments d'inattention, hein, moi le premier.
C'est purement scandaleuse. J'ai même pris des notes sur la première partie. Ensuite, on est très mal assis sur ces chaises à l'Élysée. Non, plus sérieusement. D'abord, c'est une remarque. Il avait dit aux journalistes, sa conférence de presse durera 2 heures. Elle se terminera à 20 heures. J'aurai une demi-heure d'intervention liminaire.
Il ne sait pas faire court, en revanche.
Il
a doublé son temps de parole.
Voilà. Mais non, il a été plus long dans sa première partie. Mmh. Il a rajouté le temps au fond. C'est aussi un élément qui est intéressant. C'est qu'il s'est tenu à l'engagement qu'il avait pris face aux journalistes dans cette conférence de presse, de dire une intervention liminaire et 1h30 d'échange avec vous. Il y a eu une intervention liminaire, 1h30 d'échange avec lui. Ensuite, s'il avait été trop court... Vous lui auriez reproché. S'il avait été trop long, comme ça a été quelquefois le cas dans certains débats où il a voulu prendre toutes les questions, à la fin, vous savez, vos collègues journalistes, il y avait encore 50 mains levées.
On
et donc,
a vu,
il a pris un engagement aussi, celui de revenir régulièrement face à la presse.
Finalement, l'ancien monde, ça a du bon. Les conférences de presse traditionnelles, c'était pas si mal que ça.
Mais moi, j'ai jamais aimé ce rapport de l'ancien monde. Peut-être parce que je savais que, un, j'en venais. Mm-hmm. Et donc, j'ai au moins cette modestie-là. Et deux, parce que vous êtes très vite l'ancien monde de quelqu'un.
On est toujours l'ancien monde de l'autre. Oui.
Voilà, il vaut mieux éviter ça. Et donc, c'est un propos qui n'était pas au cœur de la campagne d'Emmanuel Macron, cette opposition ancien monde, nouveau monde. Elle est venue avec les premiers temps de travail parlementaire. Je pense que c'était une erreur. Il faut pas croire que... vous savez, c'est ce vieil adage en politique qui considère que son prédécesseur est par nature un incompétent et son successeur un usurpateur, c'est pas la réalité.
On rentre dans le détail des annonces, Renaud Delis.
Parmi les sujets qu'il a abordés, qui touchent directement à votre action ministérielle, Christophe Castaner, Emmanuel Macron a semblé changer de ton sur un sujet qui est l'islam politique. Il a dit, je le cite, qu'il appelait le gouvernement à se montrer intraitable avec l'islam politique qui veut faire sécession avec notre République. Pourquoi ce changement de ton ?
Je ne crois pas que ce soit un changement de ton. Il a toujours été clair sur ce sujet. D'ailleurs, il avait invité l'ensemble des communautés religieuses, mais aussi des communautés laïques, et c'est ce que j'ai fait comme ministre de l'Intérieur en les recevant à plusieurs reprises, à réfléchir sur la place de la religion dans la société. Elle ne peut pas être supérieure aux valeurs de la République. Il a dit ça pendant la campagne, il l'a redit depuis. Et sur la question de l'islamisme radical, sur certaines pratiques d'islamisme politique, on voit bien aujourd'hui des dérives, contre lesquelles il faut lutter. Nous avons fermé 22 mosquées ces dernières deux années parce que nous savions qu'il s'y passait des choses qui n'étaient pas conformes à l'ordre public. Vous avez vu que j'ai pu dissoudre des associations liées aussi à un islamisme radical politique que nous condamnons. J'entends sur ce sujet exécuter à la lettre la consigne qu'il a donnée, être ferme.
Est-ce que cet islam radical est aujourd'hui une menace pour la République, comme l'avait dit votre prédécesseur Gérard Collomb ?
Beaucoup l'ont dit. Mmh. Emmanuel Macron l'a dit.
Gérard Collomb a attendu d'avoir quitté le ministère pour le dire.
Non, alors ça, c'est un peu injuste pour Gérard Collomb, parce que c'est les mots qu'il a utilisés à la fin, mais je crois aussi que ça a toujours été au cœur.
Au moment où il se sentait peut-être libéré de sa charge aussi.
Non, mais je crois que c'était au cœur de son combat, mais on l'a beaucoup entendu à ce moment-là, parce que c'était des mots avec une certaine forme de sacralité.
Vous diriez la même chose que lui ?
Je pense qu'il y a certains quartiers, il y a certaines pratiques, et ça n'est pas le cas de l'islam, attention à ne pas faire d'amalgame, qui, effectivement, ne permettent pas de rappeler que les valeurs de la République, je vais en prendre une, l'égalité entre les femmes et les hommes, est supérieure à tout choix religieux.
Et ça n'a pas de rapport avec l'islam, vous dites ?
Je pense que l'islam n'est pas une religion que nous devons mettre en cause, et je ne fais bien la différence entre le radicalisme religieux de certains et la religion islam. Et donc évidemment, il faut faire le distinguo, il faut surtout pas stigmatiser la religion. Vous savez, c'est une religion importante en France, elle concerne plusieurs millions de Français qui ont une pratique religieuse tout à fait conforme à nos valeurs.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est l'invité de France Info. Jusqu'à 9h, on marque une petite pause. Pour le rappel de l'actualité, il est précisément 9h20 sur France Info. Voici Stéphane Milhomme.
Emmanuel Macron prêt à abandonner l'objectif de 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires, la création dans chaque canton d'une maison des services publics. Lors de sa conférence de presse, le chef de l'État a proposé aussi de réduire significativement l'impôt sur le revenu, une réindexation sur l'inflation dès l'an prochain des retraites inférieures à 2 000 euros par mois. Pour toutes les retraites, ce sera cette fois à partir de 2021. Tout ça pour ça, le regret de Yannick Jadot ce matin sur France Info, le candidat Europe Écologie Les Verts aux européennes pense qu'Emmanuel Macron organise l'inaction et le renoncement politique en matière d'écologie pour faire, dit-il, plaisir au lobby. Jean-Luc Mélenchon, lui, réagit en forme de question. Macron sait-il que son discours était censé conclure la crise politique ? Pour le député de la France insoumise, il vient de la relancer en se défilant. Carlos Ghosn est libre, mais il doit se soumettre à des conditions très strictes de contrôle. Pas question, par exemple, de voir son épouse sans autorisation. En versant une caution équivalente à 4 millions d'euros, l'ancien PDG de Renault-Nissan a été remis en liberté hier soir à Tokyo. De nouvelles manifestations au Soudan pour réclamer l'instauration d'un pouvoir civil. Plusieurs centaines de milliers de Soudanais étaient hier encore à Khartoum et réclamaient une fois de plus la fin du conseil militaire de transition qui a évincé, il y a maintenant deux semaines, le président El-Béchir.
Info. Christophe Castaner, plusieurs annonces hier lors de cette conférence de presse d'Emmanuel Macron, mais aussi un renoncement à ce qu'avait dit Emmanuel Macron sur le nombre de fonctionnaires qu'il voulait faire baisser de 120 000 d'ici la fin du quinquennat.
Au vu de, justement, cette sortie du grand débat, il faut qu'on soit réaliste. Et donc je demanderai d'ici à l'été au gouvernement de me donner son analyse et de voir si c'est tenable. J'assume totalement, si ce n'est pas tenable, d'abandonner cet objectif.
Est-ce que ça signifie, par exemple, Christophe Castaner, que vous allez pouvoir créer des postes de policiers ?
D'abord, ça signifie qu'on va continuer à en créer. C'est le rythme sur lequel nous sommes. 2500 postes créés cette année dans la loi de finances et un objectif à peu près identique pour l'année prochaine. La sécurité, l'éducation nationale, les hôpitaux font partie, la justice font partie des priorités sur lesquelles il y a déjà des créations d'emplois et nous allons poursuivre cela.
Donc l'objectif de supprimer 120 000 fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat, comme on l'a bien compris avec l'intervention d'Emmanuel Macron, il est enterré cet objectif. Pourquoi ? Est-ce que jusqu'à présent, c'était au contraire quelque chose de capital et déterminant depuis l'élection du chef de l'État ?
D'abord, vous allez avoir l'impression que je joue sur les mots, mais j'ai souvent repris certains de mes collègues. C'était pas un objectif de campagne, la suppression. C'était un moyen de dépenser moins d'argent public.
Il l'a dit et répété, en tout cas, en campagne et depuis son élection.
Oui, mais je joue sur la différence entre un moyen et un objectif. L'objectif en soi, c'est un totem. Je me souviens de François Fillon qui disait il faut supprimer 500 000 fonctionnaires pendant la campagne, alors qu'on avait 550 000 départs à la retraite. Donc on était là vraiment sur un totem.
En tout cas, ça semblait important, ça ne l'est plus.
Si. dépenser moins d'argent public est important. Et donc le président de la République a d'un côté dit, oui mais il y a des priorités, notamment celle de la présence des services publics dans la ruralité, celle du renforcement des moyens dans l'école, celle de la non-fermeture d'aucun nouvel hôpital pendant ce quinquennat. Et donc il faut assumer que ce choix politique-là, qui est un choix effectivement de priorité politique, ait des conséquences. Ça aura des conséquences sur le nombre de fonctionnaires. Mais faut pas croire non plus que c'est seulement en créant des emplois qu'on améliore le service public. Je crois que c'est important aussi qu'on ose poser la question ainsi. Ça vaut dans la police comme dans l'ensemble des services publics.
Christophe Castaner, est-ce que ces mesures, elles sont de nature pour vous à éteindre désormais le mouvement des Gilets jaunes ou ce qu'il en reste ?
Je vais être très franc, non. Non, parce que de toute façon, depuis quelques semaines, on voit bien que ceux qui manifestent le samedi matin, ceux qui viendront demain ici devant la maison de la radio contester l'information et la liberté de l'information, ne seront pas satisfaits. C'était écrit avant même que le président s'exprime. Mais pour une raison simple, ils n'ont plus de revendications. Le samedi, les 30 000 gilets jaunes qui manifestent en France, 30 000, ça n'est pas le peuple, ça n'est pas la France. Ces 30 000 n'ont plus de revendications, si ce n'est la disparition du président de la République, in situ personae, parce que c'est un de leurs objectifs ou du ministre de l'Intérieur de temps en temps. Il n'y a plus de revendications, il y a une radicalité et on a une forme de rituel du samedi d'empêcher, de nuire et de provoquer les forces de sécurité.
Un rituel qui vous inquiète avant les manifestations de demain et c'est l'avenir du 1er mai, d'après les remontées que vous avez ?
Bien sûr, parce qu'elle nécessite d'abord la mobilisation de forces très importantes pour sécuriser les manifestants eux-mêmes, les commerçants, les citadins dans lesquels ces manifestations ont lieu, parce qu'elle abrite en leur sein des gens qui sont ultra-violents et on voit bien combien encore samedi dernier sur Paris, à chaque fois, il y a la volonté de casser, de détruire, de brutaliser. Et donc, oui, cela m'inquiète. Et puis, on a un rendez-vous le 1er mai sur lequel on sait bien que les ultra-violents, l'ultra-gauche, mais aussi des ultra-jeunes qui aujourd'hui viennent pour casser, seront très mobilisés sur Paris et pas seulement sur Paris.
Avant le 1er mai, demain, samedi, vous redoutez, Christophe Castaner, une réponse violente de ces manifestants aux propos d'Emmanuel Macron hier ?
Je crois que les propos d'Emmanuel Macron sont sans effet sur leur haine et leur rejet de tout système. Très clairement, ceux qui descendent dans la rue pour casser, je pense aux ultra-gauches, aux black box, sont de toute façon en contestation de nos institutions. Donc quoi qu'ait pu dire le président de la République, ça ne change rien. Et ça, je le regrette. Il y a cette ritualisation. Et vous savez, les ultra-violents profitent de la manif, ils se mettent dans leur sein. J'ai utilisé cette image du coucou qui vit des autres. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est quoi ? C'est quelques dizaines de milliers de personnes. C'est un tiers du public du Stade de France demain soir pour la finale de football. Donc c'est au fond pas grand monde, mais c'est beaucoup de violence. Et ce mouvement aujourd'hui ne perdure que par la violence, pas par la réalité de ce qu'il représente.
Est-ce que vous êtes le ministre aujourd'hui de policiers qui sont au bout du rouleau ?
Ils sont fatigués, il faut les entendre.
Combien
c'est
de temps ils peuvent tenir encore comme ça ?
Alors, je crois vraiment que la force du ministère de l'Intérieur, c'est sa résilience. Et donc, si ces quelques milliers de manifestants pensent qu'ils vont épuiser les forces de sécurité, ils se trompent. Mais en même temps, il y a des hommes, il y a
c'est
des femmes.
C'est-à-dire que vous tiendrez plus longtemps qu'eux, c'est ce que vous dites ?
Oui, parce que c'est la force du ministère de l'Intérieur. Vous savez, la sécurité, elle ne se négocie pas. Par contre, ce que je sais, c'est que quand ils sont mobilisés pour gérer les violences des gilets jaunes, ils ne sont pas forcément dans la rue pour faire la sécurité du quotidien. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis inquiet sur l'empêchement dans lequel ils sont. Puis quand ils sont mis en cause avec la violence que l'on a connue à la fois dans les manifestations, je pense au suicidez-vous, comme si c'était un slogan qu'on a entendu la semaine dernière, mais aussi de façon permanente sur leur façon de faire leur métier, qui quelquefois oblige aussi à une forme dans la résistance à la violence d'action et peut provoquer des blessés, que je reconnais à chaque fois, on sait que cette mise en cause perpétuelle leur fait perdre le sens de leur métier. Leur métier, c'est faire la sécurité, c'est protéger les Français. C'est pas devoir se battre tous les samedis contre des gens qui viennent les provoquer, les insulter, les matraquer, les violenter.
Ce que vous dites, Christophe Castaner, si je résume, c'est le maintien de l'ordre. On peut encore tenir comme ça plusieurs semaines. En revanche, sur la police du quotidien, là, c'est plus difficile. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à des mauvais chiffres cette année. On en a déjà eu un aperçu. Ouais. Par exemple, sur les cambriolages, par exemple, sur les atteintes aux personnes, l'année 2019 sera une mauvaise année en termes de sécurité.
Vous avez dit, on en a aperçu. Les premiers chiffres de ce début d'année sont effectivement pas bons. Ceux de 2018 étaient plutôt très bons, avec de fortes baisse sur l'ensemble des faits que vous venez d'évoquer comme les cambriolages, ce début d'année est mauvais parce que effectivement la police peut pas être partout. Il faut que les gilets jaunes assument aussi d'empêcher la police de faire son métier. Son métier, c'est protéger les Français.
Sur cette lassitude des forces de l'ordre qui sont surmobilisées, il y a un cas très précis qui s'est déroulé hier. En l'occurrence, les trois quarts des CRS d'une compagnie dans le Loiret à Saran, soit 48 membres de cette compagnie sur 61, se sont mis en arrêt maladie en même temps et n'ont pas pu assurer la sécurité de la visite de Marlène Schiappa et de Laurent Nunez. Voici ce qu'en dit l'un des responsables syndicalistes, Christophe Granger de l'UNSA. On l'écoute.
Vous avez d'un côté les collègues qui expriment un malaise parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils sont exténués, ils sont fatigués. Il y a un épuisement physique, moral. Et en même temps, vous avez la direction centrale qui continue à les presser et qui leur explique que finalement, on comprend bien votre fatigue, mais vous allez quand même bosser sur Nantes.
La direction centrale n'écoute pas, visiblement, en tout cas, ne tient pas compte de cette lassitude, de cet épuisement.
Mais tout simplement parce que les tensions qu'on vient d'évoquer impliquent qu'on les mobilise plus et plus régulièrement.
Donc
et surtout
la police,
tous les week-ends.
Le point de craquer, Christophe Castaner.
Non, je ne crois pas. Je vous ai dit qu'elle était résiliente et en même temps, je suis très à l'écoute. D'abord, j'entends cette revendication et ce qui est porté, je ne le conteste pas. C'est une réalité. Cette tension dans la police, celle qui est sur le terrain, elle est très dure à vivre. Quand vous vivez tous les samedis l'empêchement d'être le week-end avec votre famille, effectivement, c'est dur à vivre. Ils sont engagés pour cela, ils savent, mais il y a effectivement un seuil à un moment donné d'exaspération. Ils l'ont exprimé, j'entends bien. Et en plus, vous avez pu noter que c'était un message directement adressé au ministre pluriel du ministère de l'Intérieur. C'était Laurent Nunez, mon
secrétaire d'État. Justement, ne pas assurer la sécurité d'un déplacement du secrétaire d'État.
Non, mais d'abord, la sécurité a été assurée. Ensuite, on a une affirmation.
C'est un message très fort.
On a un message que j'entends très clair.
C'est une forme de rébellion à vos yeux ?
Non. Laurent Nunez les a rencontrés et l'échange s'est fait dans de bonnes conditions. Ça n'est pas une forme de rébellion. Mais à un moment donné, vous savez, vous tendez le rapport de force. Vous avez un représentant syndical qui s'est exprimé. Il est dans son rôle, je l'entends. Parce qu'il porte une inquiétude légitime de celles et ceux qui, tous les samedis, sont mobilisés. Il n'y a pas que le samedi. La sécurité des Français, elle est aussi là le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et je fais appel à eux pour cela. Donc oui, il y a une hypermobilisation qui est difficile à gérer. La direction centrale doit l'entendre. Elle l'entend aussi.
9h10 sur France Info, l'essentiel avec Stéphane Milhomme. Et on poursuit cet entretien dans un instant avec Christophe Castaner.
Emmanuel Macron prêt à abandonner l'objectif de 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires. Depuis l'Élysée, le président de la République a promis également un coup de pouce pour les retraites avec dès l'an prochain une réindexation sur l'inflation des pensions inférieures à 2000 euros par mois. Emmanuel Macron prêt également à réduire significativement l'impôt sur le revenu et cette baisse devrait toucher 15 millions de foyers fiscaux. Une précision apportée ce matin par Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances. Au départ, j'y ai cru, mais finalement pas de surprise. La déception d'Ingrid Levavasseur pour cette figure des Gilets jaunes ce matin sur France Info. Ce n'est pas ce que l'on attendait de lui, notamment en matière de pouvoir d'achat ou devant, dit-elle, la situation des familles monoparentales. Le leader radical Zahram Hakim est mort. Il est bien l'un des kamikazes des attentats dimanche dernier à Colombo, la confirmation ce matin du président du Sri Lanka, alors que 140 suspects de cette même mouvance radicale restent recherchés. Le bilan est revu à la baisse, il est de 250 morts et près de 500 blessés. Et puis un dixième vendredi de manifestation attendue en Algérie, principalement dans la capitale. Cette semaine a été marquée par l'incarcération de trois hommes d'affaires liés au président déchu Bouteflika. 3000 salariés ont manifesté hier en Kabylie après l'incarcération cette fois du dirigeant de Cevital, c'est le premier groupe privé d'Algérie.
Info. Toujours avec le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et Renaud Dely.
Après 48 heures de garde à vue, le journaliste Gaspard Glantz s'est vu signifier une interdiction de séjour à Paris les samedis et le 1er mai jusqu'au mois d'octobre lors de son procès pour outrage à un agent dépositaire de l'autorité publique. Il dénonce un traitement disproportionné.
En fait, je préfère respecter mon contrôle judiciaire et afin que mes avocats aient toutes les armes en leurs mains pour combattre ce qui arrive et pouvoir à un moment régler ce problème définitivement et qu'à un moment, il y a un ministre censé dans ce pays de l'intérieur qui fait un vrai rappel aux forces de l'ordre en disant qu'on est hors jeu, quoi, on est hors zone, quoi, faut arrêter de nous tirer dessus, quoi.
Il vous accuse de tirer sur les journalistes.
Non, mais d'abord, il m'accuse manifestement de sa garde à vue. Je vous rappelle la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Cette décision est celle d'un juge. Donc, il assume ses responsabilités devant un juge. Vous savez, le fait de prétendre être journaliste n'est pas un permis de commettre des délits.
Pourquoi ce qu'il prétendre a fait, d'être journaliste d'abord, il n'est pas pour vous.
Alors, je vais vous dire très simplement, je pense que journaliste, c'est aussi avoir une carte de presse.
Parce qu'à cette condition...
Je pense que c'est ça. Et puis alors, est-ce que c'est être journaliste? Je vais être un peu brutal, mais moi, je connaissais pas ce jeune homme avant le week-end dernier. Et comme il y a eu un débat, vous savez, quand il est interpellé, évidemment, ça ne rentre pas au ministère de l'Intérieur. J'ai regardé notamment ce qu'il disait de moi. Ça doit être un vrai journaliste d'investigation. La dernière fois qu'il a parlé de moi, son tweet, c'était « Tu n'es qu'une grosse merde, Castaner ». Voilà ce que vous pensez peut-être être un journaliste, moi non. Et donc, samedi dernier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a provoqué les forces, il leur a fait un doigt d'honneur. Je vous le dis, c'est pas parce qu'on met une GoPro sur un casque et qu'on se revendique journaliste qu'on a un impunité. Donc il doit répondre de ses responsabilités, il a déjà été condamné, il a été déjà sanctionné, il continue. Pour moi, c'est quelqu'un qui a provoqué les forces de l'ordre, qui ne les respecte pas. Il est bien aussi que la justice s'applique à tous, et les journalistes, ou ceux qui se prétendent journalistes, ne font pas exception à cela.
Pardonnez la brutalité de la question, mais 2 jours de garde à vue pour un doigt d'honneur, c'est pas beaucoup.
Mais je n'ai pas à me prononcer, ça n'est pas le ministère de l'Intérieur. Et d'ailleurs, vous voyez bien l'amalgame d'ailleurs de cet homme qui me met en cause, alors qu'il sait pertinemment que dès qu'il est placé en garde à vue, il est sous autorité du judiciaire, et donc d'un juge, d'un magistrat, qui a décidé à la fois de le maintenir et à la fois de prolonger.
D'autres journalistes ont parfois été blessés ou interpellés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, une vingtaine.
Beaucoup ont été protégés. Encore la semaine dernière, une équipe de TF1 qui a dû s'enfuir devant les Gilets jaunes et qui a été protégée par les forces de l'ordre. C'est important aussi de le rappeler. Le plus souvent, c'est le cas. Et quand elles sont attaquées, je pense à des blessures graves contre des journalistes, là encore, notre police sous le volet judiciaire a fait en sorte que les auteurs soient sanctionnés par la justice.
Combien de policiers sanctionnés depuis le début des manifestations des Gilets jaunes pour violence policière ? Vous avez le chiffre ?
Non, mais d'abord, moi je refuse le terme de violence policière. Une violence policière, c'est le fait de volontairement blesser quelqu'un. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de blessé.
Il
n'y
a pas eu un acte volontaire depuis le début du mouvement des Gilets jaunes de la part d'un policier, d'un gendarme, d'un CRS ?
Ce que je sais, c'est que contrairement au comportement des Gilets jaunes, dès qu'il y a une plainte qui va de l'injure, d'un mauvais comportement, d'un doigt d'honneur, par exemple, il y a une enquête. Elle est confiée à l'IGPN, sous l'autorité judiciaire, la police nationale, ou à l'IGGN pour la gendarmerie nationale. Il y a 220 enquêtes sur l'IGPN qui sont en cours, qui sont placées sous l'autorité.
Qui ont déjà abouti ou pas encore ?
Non.
Aucune.
Non, parce que ce sont des enquêtes judiciaires, elles prennent un peu de temps. Et je vous le dis, s'il y a des décisions judiciaires, il y aura évidemment des sanctions administratives. Mais la vraie différence, c'est que je demande l'exemplarité, mais je demande aussi qu'on respecte la police dans son pouvoir légitime d'utiliser la force. Parce qu'à un moment donné, si on dit à la police et à la gendarmerie, vous n'avez plus le droit d'utiliser la force, elle doit subir. Se laisser agresser, ne rien faire, laisser casser des magasins, laisser menacer l'équilibre et l'ordre dans nos villes, non. La police, elle est légitime et c'est la seule qui est légitime à utiliser la force.
Est-ce que vous avez identifié quelques-unes des personnes qui, il y a quelques jours à Paris, ont scandé « suicidez-vous » à des policiers ?
L'enquête est en cours, la réponse est oui.
La réponse est oui. Vous en avez identifié ? Certains ont été interpellés déjà ?
Non, ça, on est sur l'enquête, mais on a identifié certaines personnes. Donc, il y a des enquêtes en cours.
Et ils vont de suite, oui.
Je souhaite qu'ils soient interpellés et j'espère qu'ils seront condamnés. Vous rendez compte ? La gravité, quand même. À un moment où, effectivement, les policiers se sont mobilisés, et je me mobilise avec eux, devant eux-mêmes, pour lutter contre le suicide dans la police, qui est à un niveau très élevé. À ce moment-là, où il y a des gens qui se prétendent manifestants, qui prétendent porter un discours politique, qui interpellent et qui disent « suicidez-vous ». Et depuis, vous avez vu qu'il y a eu plusieurs reprises, mais c'est un effet de mimétisme, il y a des tags, etc., insultants sur des commissariats, sur des gendarmeries. Mais dans quel monde est-on ? Où on invite les gens, au nom de pseudo-revendications, à se tuer.
Comment est-ce que vous expliquez justement ce fossé, même bien plus que ça, qui s'est creusé, quand on se souvient qu'il y a 4 ans à peine, au moment des vagues d'attentats qui ont endeuillé la France, bien les policiers, les CRS, les forces de l'ordre étaient applaudis.
Mais parce que les policiers, les forces de l'ordre sont applaudis par les Français. Et ils continuent de l'être. 76%, un sondage récent, montre que les Français apprécient leur police. Alors faites attention. Ceux qui manifestent tous les samedis ne sont pas le peuple. Ils ne sont pas la France. Ils sont des excités qui portent une revendication qui est anti-institution. Ils sont ceux qui mettent le feu à des préfectures, qui défoncent l'Arc de Triomphe. Ils sont ceux-là. Ils ne sont pas le peuple. Il faut faire attention aux choses. Ces 30 000 personnes, je vous le dis, ne sont pas celles et ceux qui ont des exigences démocratiques, ont des contestations politiques qui sont parfaitement légitimes. Mais ceux qui sont là et qui crient « suicidez-vous », ceux qui viennent pour casser dans nos villes chaque samedi, ne sont pas le peuple.
Un mot, Christophe Castaner, sur Nathalie Loiseau, votre candidate aux élections européennes. Elle est fragilisée par les révélations sur son passé ?
Je crois pas. Franchement, je pense que c'est un faux débat.
On peut avoir été candidate aux côtés de l'extrême droite et défendre la majorité.
Il y a 35 ans, on peut tous avoir fait des bêtises. Je crois même qu'elle a des conneries. Moi, j'en ai fait. J'en ai
grave qu'elle ? Qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise ?
Je considère que avoir fait une erreur politique à un moment donné n'est pas forcément grave. Si on le reconnaît, si on change, si on évolue. Beaucoup ont des parcours politiques. Moi, je viens du Parti Socialiste, donc j'ai jamais été là. Et mon combat contre le Front National a toujours été au cœur de mon combat. Mais franchement, mener autant de débats, de discussions autour du fait qu'il y a 35 ans, Nathalie Loiseau ait été sur une liste non élue dans laquelle il y avait des gens d'extrême droite, c'est quand même assez
dingue. Peut-être parce que sa défense a beaucoup varié critiquer depuis le début de cette affaire aussi.
Non, mais il y a peut-être des erreurs de communication, mais voilà, je vous dis, franchement, je ne sais pas pour vous, je n'ai pas de dossier contrairement au mythe du ministère de l'Intérieur.
Moi aussi, j'en ai fait des bêtises, je vous rassure.
Mais il y a 35 ans, oui, j'ai fait des bêtises. En plus, d'ailleurs, moi, beaucoup le savent, j'ai passé mon bac en candidat libre, j'ai eu plusieurs années où je n'ai pas travaillé, où j'ai quitté le lycée, et donc j'ai quelquefois fait des choses que je regrette. Voilà,
mais sur et pourtant, vous êtes ministre de l'Intérieur aujourd'hui.
Et pourtant, mais oui, mais je pense que c'est ça aussi la dignité de la République. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas des parcours uniques, qu'il n'y ait pas des gens standardisés, qu'il y ait des gens différents. Et je crois que la force d'Emmanuel Macron, c'est aussi celle de choisir pour travailler avec eux des femmes et des hommes qui ont des parcours différents. Ce que je sais de Nathalie Loiseau, c'est que c'est la meilleure spécialiste des institutions européennes. Et c'est plutôt ça que j'attends d'une candidate tête de liste aux européennes, plutôt que des spécialistes de la langue de bois, de la revendication, de la contestation systématique.
Merci à vous, Christophe Castaner. Merci. Ministre de l'Intérieur. Merci à Renaud Déliègue également.